On est tous des enfants. C'est génial, ça. Hein? On l'a chanté. Vous voyez, les enfants, on est tous des enfants, en fait. Hein? Voilà. Sauf que nous, on a un peu plus de responsabilité, mais on est quand même des enfants. Et devant Dieu, on est tous les mêmes. Alors, on va essayer de parler de quelque chose. Je vais vous raconter une histoire qui est de la Bible. Mais avant ça, je voudrais vous poser quelques questions. Ou en tout cas, une question. Est-ce que vous faites une collection de timbres? Non, ça se fait plus, ça? C'est démodé? Je suis pas à la page, alors. Ça existe plus? Bon. C'est quoi un timbre? Oui, c'est vrai. C'est une bonne question. Alors, il y a des timbres qui sont un peu anciens, effectivement, mais qui représentaient parfois des animaux, ou bien parfois des fleurs. Vous avez des timbres qui racontent des histoires de construction. Moi, j'habite pas loin de ce monument ici. Vous savez ce que c'est, le monument? Le pont du Gard. Un très très vieux pont, date des Romains. Ça, par contre, vous connaissez mieux. La Tour Eiffel, par exemple. Hein. Vous voyez, des timbres représentent aussi des monuments. Certains représentent et font des commémorations d'événements sportifs. Ça, c'était des sports d'hiver. Vous n'êtes pas très loin de la montagne ici. Hein. Vous connaissez tous ces sports d'hiver. Donc, un timbre a quelque chose. Ou bien encore, certains représentent des avions. Hein, voilà, encore un timbre ou plusieurs timbres. D'autres représentent des tableaux d'artistes, des peintures, qui nous rappellent un petit peu ce que les gens ont fait. Ouais, un tableau de Buffet, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu. Et puis, il y a des timbres qui sont particuliers parce qu'ils rappellent un événement de l'histoire. Tiens, à votre avis, qu'est-ce que ce timbre pourrait nous rappeler comme histoire? Oui, la guerre, effectivement. Et cette guerre qui s'est terminée en juin 44, le 6 juin, le débarquement en Normandie. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Hein. Tiens, ce timbre-là, à votre avis, qu'est-ce qu'il représente? La Coupe du Monde, quoi particulièrement? La victoire de la France, bien évidemment. C'est à la culture nationale maintenant, ça, hein, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne se souviennent pas eh bien, de la date, c'était le 12 juillet 1940. 98. Vous voyez, donc, ce sont des timbres, quand on reçoit une lettre, on ne réalise pas forcément, mais il y a quelque chose dessus. Hein. Et il faut parfois un petit peu, au lieu de se jeter sur la lettre, on le comprend, pour l'ouvrir, se dire, oh, tiens, il est joli ce timbre, oh, il ne me plaît pas, parce que pour tout, il peut ne pas nous plaire aussi. Hein. Bon. Tiens, voilà un timbre un peu spécial. Ah, oh. Qu'est-ce qui représente ce timbre?
Le semeur.
Ouais, on voit un semeur qui est sur son champ, effectivement. Ouais. Eh bien, Jésus, vous savez, a raconté beaucoup d'histoires. Et un jour, il a raconté une histoire, justement, d'un semeur. Et ce timbre va nous accompagner. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce que Jésus va nous dire à travers cette histoire. Oui, il raconte un jour l'histoire d'un semeur qui, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il sème. Ah, voilà. Et il sème sur une partie d'un sol qui est très dur. Quand il jette sa semence, il la jette tellement un peu comme il a envie, hein, qu'il y a une partie de la semence qui tombe sur un sol très très dur. Pourquoi ce sol est dur? Eh bien parce que c'est peut-être le bord du champ, un chemin, etc. Donc les petites graines, quand elles tombent là, elles ne peuvent pas rentrer, c'est trop dur. On y reviendra. Alors, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent manger la graine. Parce qu'elle ne rentre pas dans le sol. Hein. Et alors ça, ce n'est pas comme ça qu'on va avoir de la nourriture hein, et que ça va pousser, on est d'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que Jésus dit. Voilà un semeur qui fait ça. Mais ce même semeur, eh bien, il sème à tout vent et une partie de la semence va tomber sur un sol plein de rochers, un sol, on va dire, rocailleux. Et là, c'est pareil. La petite graine, elle va peut-être pouvoir, entre les pierres, passer et rentrer dans la terre, s'il y en a un peu, mais au bout d'un moment, ce ne sont pas les oiseaux, mais il y a un astre dans le ciel qui va faire quelque chose de dur et de terrible, le soleil, il va brûler la petite graine. Et au bout d'un moment, faute de racines, hein, quelque part, et peut-être d'eau aussi, eh bien le soleil va la brûler et la graine, elle ne va pas du tout germer. Vous avez déjà, les enfants, fait germer des petites graines dans un pot à l'école? Vous avez déjà fait ça, hein, vous avez vu, il faut mettre la graine, il faut de l'eau, hein, il faut de l'humidité, puis hop, à un moment donné, voilà, que la graine revient. Et bien là, ce n'est pas possible, parce que le soleil est trop puissant. Donc Jésus, il nous raconte ça et puis il continue. Il dit, oui, le semeur, il fait pas que ça. Quand il jette sa graine, eh bien, il y a certaines graines qui tombent sur un sol plein de ronces. Parce que dans les champs, parfois, eh bien, on n'a pas tout travaillé. Et à l'époque, peut-être, on ne travaillait pas comme aujourd'hui, les champs avec des tracteurs, etc. Donc, il y avait des endroits où il y avait encore des ronces. Eh bien, la graine, quand elle tombe dans ces endroits de ronces, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle ne peut pas non plus grandir. Parfois même, les ronces, elles sont à côté de la graine, mais elles ne sont pas encore sorties. Et elles sortent même ensemble. Hein, la petite graine commence à pousser. La ronce qu'on n'a peut-être pas vue pousse aussi. Et puis, la ronce pousse beaucoup plus vite. Et alors, elle finit par étouffer la graine qui ne peut pas grandir, n'est-ce pas? Ah oui, on aime bien manger aussi les mûres des ronces, hein, c'est quand même pas désagréable, n'est-ce pas? Donc voilà une troisième forme, une troisième sorte de terrain sur lequel la graine peut tomber. Mais fort heureusement, il y en a quand même un autre de terrain qui est, lui, plus intéressant. Et c'est sur ce terrain-là que le semeur va semer le plus de graines, la plus grande partie de ses réserves. Et c'est un sol qui est bon. D'accord? Pourquoi il est bon, ce sol?
Parce qu'il y a de la bonne terre.
Ouais. Et il a été travaillé, on y a fait attention, etc. On a mis de l'engrais, ou on a fumé, etc. Ouais, tout à fait. Voilà un bon sol. Mais, vous savez, Jésus, quand il raconte des histoires comme ça, il ne raconte pas pour nous faire passer le temps, ou à son époque, pour faire plaisir. Il veut nous faire réfléchir. Et il veut nous faire réfléchir et savoir ce que nous pouvons comprendre de ces images de ce semeur qui sème. Alors on va se poser une question et on va réfléchir. Pour semer, il faut quoi par rapport à ce qu'on vient de dire?
Une graine.
Alors avant, qu'est-ce qu'il faut pour semer?
Un champ.
Ah non, un semeur, on vient de le dire. Alors vous dormez là, on va se réveiller. Hein? Il faut un semeur. Bon. Ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'il faut? Toi, tu l'as dit. Et une graine, bien évidemment. Une semence. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il faut encore?
Un champ.
Et il faut un champ. Ah, oui, bien sûr. Il faut un terrain. Et il faut faire en sorte que ce terrain soit le mieux possible. On vient de voir que Jésus, lui, il a raconté en disant, ouais, mais des fois, le semeur, il jette, et puis la graine, elle va dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. On va y venir. OK. Donc, il faut ces trois choses. C'est capital. Bien. Alors, quand Jésus parle comme ça, derrière chaque partie, il y a quelque chose qui va concerner notre vie. On l'a chanté plusieurs fois, qui va même concerner notre cœur. Ah oui, c'est étonnant, hein, mais vous allez voir. Qu'est-ce que, pour Jésus, le semeur? Qui peut représenter le semeur pour Dieu?
L'amour.
Pas tout à fait. Non.
Dieu.
Ouais. Mais en la personne de quelqu'un. Jésus. Alors Jésus raconte lui-même l'histoire. Et en fait, en racontant l'histoire, c'est comme s'il disait, je suis le semeur. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus sème, en fait? Il sème pas de la graine, comme ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'il sème?
Non.
Ce que tu voulais dire?
Il sème la foi.
Il sème la foi. Ouais. Il faut lui donner quelques bons points à ce gentil-là. Il sème la foi. Alors, la foi, bien sûr, c'est très large, mais il sème quelque chose, ou la foi, à travers ça, que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a dit en son temps, ce qui avait été dit avant le concernant, c'est là, dans ce livre aujourd'hui, qui est la Bible, et qui est un livre particulier. Alors, pour revenir un petit peu au timbre et à la lettre, eh bien, la Bible, c'est comme si Dieu nous avait envoyé une lettre du ciel. Poum ! J'ouvre ma lettre et je lis ce que Dieu veut me dire. Alors, il n'y a pas de timbre dessus, si ce n'est le semeur qui est Jésus. C'est une lettre. Vous savez, si Jésus ou si Dieu avait voulu nous parler, peut-être de sa grande voix, grosse voix du ciel, en disant « Eh oh, en bas, dans la terre, écoutez-moi, s'il vous plaît !» Oh, on aurait tous pris peur. Certainement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui parle? Eh bien, c'est plus discrètement qu'il l'a fait, en faisant venir Jésus sur la terre. Et en Jésus, c'est une lettre qu'il nous envoie. Jésus est le porte-parole, quelque part, de celui qui nous a créé, Dieu. Mais Jésus il est aussi Dieu, hein, bien évidemment. Mais ça, on ne va pas y venir dessus. Et puis le terrain, qu'est-ce que le terrain dans l'histoire de Jésus, à votre avis? Que représente le terrain? Alors tu veux encore un bon point, toi? Nous, exactement. Ouais, très bien. Et nous, et particulièrement une partie de nous, et on l'a chanté à plusieurs reprises, c'est notre cœur. Notre cœur, pourquoi? Parce que le cœur, eh bien, c'est quand même le siège des sentiments, de la volonté, de notre conscience. Il y a plein de choses dans le cœur, et encore, on ne le connaît pas, le cœur. Ce n'est pas simplement un muscle, hein. C'est un muscle, bien évidemment, mais pas que. Il y a des choses, et on le voit, vous savez, quand on a peur, par exemple, on a un mouvement dans le cœur. Quand on est amoureux, pour ceux qui ont été amoureux, il y a un mouvement dans le cœur. Donc, en fait, c'est un muscle, mais qui interagit, qui réagit avec les émotions. Et Jésus veut nous faire réagir aussi dans le cœur avec les émotions. Donc en fait, Jésus, à travers l'histoire, montre qu'il y a différents endroits, différents cœurs, où tombe sa parole qu'il veut annoncer. Et on va voir ce que représente chaque terrain, vous allez comprendre. Alors est-ce que vous vous souvenez comment était le premier terrain ? Alors toi, on va, parce que j'ai plus de bons points à distribuer. D'autres que toi. Ah, c'était pas le premier. Comment il était le premier? Dur. Comme la pierre, si on veut dire. Mais en fait, c'était pas le rocaille. C'était le sol dur. Oui, ceux qui sont le long du chemin, dit Jésus, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient. Le diable, c'est celui qui s'oppose à Dieu, qui ne supporte pas que Jésus fasse quelque chose dans notre vie. Enlève de leur cœur la parole qui a été semée, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. On l'a chanté tout à l'heure, on en a parlé, hein. Dieu veut nous amener vers lui, je vais y venir, et le diable lui veut pas. Alors chaque fois que la lettre de Dieu, que cette semence va tomber dans mon cœur, eh bien le diable va tout faire, parce que peut-être mon cœur est encore un peu dur, et que les choses ne sont pas préparées, et il va en profiter pour tout enlever. Alors la situation que décrit Jésus nous fait penser à un cœur bouché. Ouais, bouché, boum. Et ce sont des personnes qui disent « Ah, vous m'ennuyez avec Dieu, j'y crois pas. » Vous y croyez en Dieu? Ouais, il n'y a peut-être pas des gens ici avec nous qui ne croient pas, j'espère. Mais ça existe, et puis on peut le comprendre, vous savez, il y a des personnes qui ont vécu dans leur vie des situations difficiles et qui peut-être ne peuvent pas imaginer qu'un Dieu d'amour et pu accepter ou tolérer qu'il leur arrive ceci ou cela. Donc, on peut comprendre parfois certaines personnes. Mais en même temps, Dieu les aime aussi. Il veut les amener vers lui. Un cœur bouché. Non, je n'ai pas besoin de lui dans ma vie. Moi, je me suffis tout seul, je m'amuse, je m'éclate. C'est génial. Et vous savez que ces personnes, elles croient que croire en Dieu va les empêcher de faire leur vie, de s'éclater, de s'amuser. Parce que ils se disent, il va falloir aller à l'église, il va falloir prier, il va falloir lire la Bible, il va falloir fréquenter des gens que j'ai pas envie de fréquenter. Bref. Donc ces gens-là, ils se disent, Dieu, mais parce qu'ils ont un cœur dur. Et un cœur durci par la vie peut-être, mais ils ont un cœur dur. Et ça peut pas rentrer. Parce que le diable prend vite, à travers les oiseaux, l'image, tout de suite la graine est partie. Et c'est dommage. Mais vous savez, Dieu laisse chacun libre de ses choix. Tu veux être bouché ? Reste bouché. Je ne vais pas te déboucher de force. Je ne prends pas le tire-bouchon. C'est toi qui vas me demander de mettre le tire-bouchon pour être débouché. Hein ? Un jour, il y a un garçon, il dit à son papa, c'est une histoire de la Bible, il dit, papa, j'en ai ras-le-bol de travailler avec toi. Maintenant, ça suffit, je veux faire ma vie, je veux m'éclater. Et le père lui dit, écoute, oui, si tu veux, vas-y, je ne peux pas t'en empêcher. C'est dommage parce que tu vas avoir des histoires. Pas grave, je veux partir. Et puis, il part de la maison avec des sous. Hein, et puis il s'éclate, il fait plein de choses, mauvaises choses, et puis il finit par se rendre compte qu'il s'est trompé. Et il revient à la maison du papa, et puis il dit, papa, je m'excuse, tu avais raison, il ne fallait pas que je parte. C'est un peu pareil, ceux qui ont le cœur dur, ils partent de la maison, ils s'éloignent de Dieu, et au final, il faut qu'ils aient le temps, et Dieu met du temps parfois, pour qu'ils réalisent qu'ils se sont trompés. Comment était le deuxième sol? Ouais. Un sol rocailleux, avec des cailloux. Et Jésus dit quoi sur ce sol? Il dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Là, on va un petit peu plus loin. La graine, elle commence à rentrer. C'est-à-dire que quand Dieu m'a dit quelque chose, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah oui, mais Dieu, peut-être il existe. Je ne suis pas du style à dire non. Et puis je commence à me dire, ah, mais s'il existait, peut-être qu'il pourrait, voilà, je pourrais aller vers lui, etc., etc. Mais comme il manque de profondeur et qu'ils ne prennent pas le temps de laisser la racine s'enraciner, c'est le cas de le dire, eh bien, la croissance est arrêtée parce qu'il y a des pierres autour et c'est dur et ça ne rentrera pas. Alors la situation que décrit Jésus ici, c'est un cœur que je dirais timide. Il est ouvert, mais encore un peu timide, n'est-ce pas? Il entend la parole, la semence, mais il en est même touché. Il semble comprendre, mais voilà que les difficultés arrivent. Ah, pourquoi je me suis cassé une jambe? Pourquoi Dieu a permis que je me casse une jambe? On me dit que Dieu, il est là, mais il ne m'a pas aidé. Et là, ils se disent, finalement, Dieu n'existe peut-être pas, comme on me l'a dit. Ou bien, ils se font moquer par des copains, par des copines, par des collègues de travail. Hein, parce que, voilà, tu crois en Dieu? Oh, arrête, c'est des histoires, ça. Qu'est-ce que tu vas chercher? Hein. Et ce cœur-là, eh bien, au bout d'un moment, il finit par se détourner de Dieu à son tour. Il n'y a pas assez de racines. Et Satan aussi, le diable, sait très bien manœuvrer pour nous décourager. Et les difficultés qui viennent, eh bien, Satan s'en sert pour nous enlever la petite graine qui est tombée. Comment était le troisième sol?
Ronceux.
Très bien. Épineux. Ou ronceux. Oui. Et Jésus dit quoi de ce sol? Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruit qui vient à maturité. Alors à cet endroit, le sol n'est pas pur, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il renferme autour de lui plusieurs sortes de graines qui peuvent pousser ensemble de la bonne graine. Donc ça pousse, il y a de quoi faire pousser, pas de souci. Mais les épines, petit à petit, vont venir étouffer la plante qui est en train de sortir. Alors la situation que décrit Jésus ici nous fait penser à un cœur partagé. Ce cœur est ouvert à Dieu, mais il a de la peine à lui donner la priorité. Il y a d'autres choses qui arrivent, d'autres choses qui prennent la place de cette semence qui un jour est venue et qui avait fait du bien. Et si on laisse les autres choses venir au-dessus, on finit par étouffer la vraie semence. Comme les ronces, ce cœur contient beaucoup de choses. Alors c'est vrai que dans la vie, on a beaucoup de choses qu'on voudrait faire et qu'on a envie de faire. Et tout ce que je mets là en dessin, soit du sport, de la musique, Internet, etc., l'informatique ou la vie, c'est pas mauvais en soi. Mais ce sont des choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Et ça, c'est l'idée de Jésus, ce cœur qui est envahi par les ronces. Dieu veut être la première dans notre vie et dans notre cœur. C'est ce qu'il souhaite pour nous, parce que c'est le meilleur pour nous. C'est pourquoi il faut être vigilant pour voir et comprendre qu'est-ce qui étouffe dans ma vie la parole de Dieu qui est semée. Qu'est-ce qui continue à prendre plus de place et qui m'empêche de grandir avec Dieu. Que ce soit pour vous, que ce soit pour chacun de nous d'ailleurs, nous qui sommes adultes. Je parlerai tout à l'heure d'un concours biblique qui pourrait vous intéresser. Et à ce concours biblique, nous avons une jeune fille qui s'appelle Camille et qui a 16 ans. Et qui, suite à l'étude dans le concours de cette histoire des quatre terrains, nous dit ceci. Elle écrit « Je pense que mon cœur ressemble au terrain fait de ronces et d'épines. Car je vais à l'église, je prie, je chante avant de manger, je lis la Bible, etc. Donc il y a quelque chose qui pousse en elle, qui est là. Mais j'ai du mal à refuser certaines choses. Comme avec mes potes. Ne pas dire des mots grossiers, même si je leur parle de Dieu, si je les invite à venir à l'église, eh bien, ils refusent, mais peut-être aussi parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Donc, je trouve toujours des situations, dit-elle, qui prennent la place de tout ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et elle est consciente de ça. Et je trouvais assez intéressant et encourageant de voir qu'une jeune fille de 16 ans déjà comprenne la priorité et en même temps se disent, mais je ne fais pas tout pour que Dieu soit premier dans ma vie. Donc, dit-elle, je pense que mon cœur possède des ronces et des épines avec lesquelles j'ai du mal à partager ma foi. Alors, réfléchissons un petit peu, qu'est-ce qui peut aussi dans notre vie prendre la place de Dieu? Et puis, nous arrivons à notre dernier terrain. Comment était le dernier terrain? Tu te souviens? Comment il était?
Il était bon.
Il était bon, exactement. Et ce bon terrain, Jésus dit ceci, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. » Alors, il y a des temps où le terrain se prépare. Peut-être qu'aujourd'hui, certains se disent, « Mon cœur, il n'est pas préparé, mais ce n'est peut-être pas le temps, mais ça va venir. » Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un a un cœur préparé, tout simplement, et qu'aujourd'hui, il va comprendre quelque chose qu'il n'a jusqu'alors jamais pu ou vu ou su comprendre. Et c'est là que le terrain bon prend le relais. La situation que décrit Jésus nous fait penser donc à un cœur qui est ouvert, à un cœur qui est honnête, qui se dit, ben, si vraiment Dieu existe, je veux bien le découvrir. Et j'ouvre tout grand ma vie, tout grand mon cœur. Je le laisse entrer, je le laisse prendre sa place. C'est un choix. C'est un choix qu'il faut faire un jour dans sa vie. Et vous savez, il n'y a pas d'âge pour ça. Plus tôt vous ferez ce choix, plus tôt vous comprendrez les choses et vous vivrez des moments extraordinaires avec Dieu. Même si, attention, je ne dis pas que la vie avec Dieu est toujours facile. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, c'est vrai. Mais en même temps, Dieu nous aide. Vous savez, moi, j'ai eu la joie et en même temps la grâce, parce que ce n'est pas une chance, c'est une grâce, eh bien, de commencer à lire la Bible, la semence de Dieu, à l'âge de 8 ans. Qui c'est qui a 8 ans ici? Tu as 8 ans? Voilà. Mais presque 8 ans. Voilà. Eh bien, j'ai commencé à lire la Bible à ton âge, tu vois. Moi, je remercie Dieu, mes parents, d'avoir permis que je puisse le faire. Et ce livre m'a toujours aidé. Et j'avais peut-être un cœur qui était peut-être bon à ce moment-là. En tout cas, merci Seigneur, c'est une grâce et la semence est rentrée. Et quand la semence rentre, alors on a des actions. On peut prier Dieu, parce qu'on a une relation avec lui. On prie et on lit la Bible. Hein. On a ces deux relations, la prière et la lecture de la Bible, qui sont des choses très importantes dans la vie. Parce que finalement, quand vous avez faim, qu'est-ce que vous faites, les enfants? Ah, très bien, tu auras un bon point aussi. On mange. Et quand on ressent dans notre cœur un besoin, la nourriture ne sert pas, la nourriture ne suffit pas. Eh bien, c'est ça la nourriture. On mange. Quand on lit la Bible, c'est comme si l'on nourrissait notre être intérieur. Ça paraît étonnant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ça, quand on le fait, vous vous en rendrez compte. Ce contact avec Dieu est important pour vous aider à trouver dans votre vie, vous les enfants, peut-être les ados ici qui sont là, ou les jeunes, le chemin dans votre vie. On est comme dans un labyrinthe, bien souvent. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être un peu plus qu'avant. Et on se trouve confronté à des choix, à des décisions, parfois importantes, qui vont avoir des conséquences sur tout le restant de notre vie. Ça peut être un travail qui peut se changer, c'est vrai. Ça peut être un mari ou une femme qui ne peut pas se changer aussi facilement qu'un travail. Donc, c'est des choix qui sont importants. Et parfois, on ne sait pas. Et puis, il y a plein d'autres choix que l'on a à faire. Eh bien, aussi paradoxal, étonnant que cela puisse être, eh bien, la Bible peut nous aider à choisir, peut nous aider à prendre la direction et à éviter de nous perdre dans la vie et dans le labyrinthe de cette dernière. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, c'est comme si j'avais un casque de mineur, hein, et puis voilà, la parole, elle va éclairer mes pas chaque fois que je vais marcher. Ça paraît étonnant, hein. Eh bien, je vous garantis que c'est vrai, que ce n'est pas un truc, c'est une réalité, parce que la Bible est la parole de Dieu, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui prend soin de nous et qui veut le meilleur pour nous et nous amener sur son chemin à lui. Alors, la question qu'il faut que nous nous posions est la suivante. Est-ce que tu peux, toi, savoir, tu n'as pas besoin de répondre maintenant, mais dans ton cœur, justement, est-ce que tu peux savoir où tu en es dans ton cœur? À quelle étape tu en es? Ça, c'est important. Et en fonction de la réponse que tu peux donner, eh bien, tu vas devoir réagir, rebondir, et te dire, il faut peut-être que j'avance un petit peu. Il faut que je coupe les ronces, il faut que j'enlève les pierres, n'est-ce pas? Il faut que je travaille un petit peu ma terre, il faut que je me prépare, il faut que je m'ouvre, etc. Plein de choses à faire comme cela. Alors, on va revenir au timbre de tout à l'heure. Et je voudrais vous faire et vous rappeler trois choses importantes. Un timbre, alors je ne sais pas les enfants si vous êtes au courant, mais il y a un chiffre. Vous avez déjà vu ce chiffre sur un timbre? Ouais. Ça représente quoi? Combien ça coûte? Ouais, parce qu'un timbre, il faut l'acheter. Enfin, encore, peut-être qu'un jour ça viendra, on nous les donnera. J'y crois pas trop. Un timbre, ça coûte. Eh bien, il faut que vous compreniez que ce timbre a de la valeur. Il peut avoir une certaine valeur. Celui-ci aurait 80 centimes d'euros. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, comme un timbre. C'est-à-dire que vous ne devez jamais laisser personne vous dire que vous êtes inutile, que vous êtes un idiot, que vous êtes ceci, que vous n'êtes pas cela. Vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Et nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, nous sommes aimés de lui. Et nous avons de la valeur à un tel prix que Dieu nous a rachetés, que Dieu nous a, quelque part, a permis que nous soyons dans sa présence parce qu'il a payé lui un prix. Et ce prix, c'était Jésus qui est mort sur la croix. Alors, ce n'est pas forcément évident à saisir au premier abord, mais parce que nous avons du prix, eh bien, Dieu a payé pour que nous soyons dans sa présence à travers la personne de Jésus. Ça, c'est la première chose qu'il ne faut pas oublier. Vous avez du prix aux yeux de Dieu, comme un timbre a un prix. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est dans le rond? Non, ça représente une image, on est d'accord? C'est un semeur. Mais vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait plein d'autres images sur un timbre. Eh bien, n'oubliez pas que vous, en tant qu'individu, vous portez quelque chose. Vous représentez quelque chose. Vous avez... Votre vie montre une image aux autres. Quelle image montrez-vous aux autres? Vous imaginez quelqu'un qui est toujours triste? Il montre une image de quelqu'un qui n'est pas content, qui n'est pas heureux. Ça peut arriver. Quelqu'un qui est toujours en train de rigoler, il montre une image de quelqu'un toujours joyeux. Quelqu'un qui dit toujours des mots grossiers, quelle image il montre? Est-ce que c'est une image qui peut glorifier Dieu? Non. Donc on montre quelque chose. Et ce que nous montrons, eh bien, peut avoir des influences sur ceux qui sont autour de nous. Vous imaginez, vous dites à votre copain, « Ah ouais, moi je veux donner mon cœur à Jésus, etc. » Et puis vous continuez à mentir, à voler, à faire plein de choses. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire, ah c'est ça, croire en Dieu, finalement, il n'y a rien qui change dans ta vie. Ben non, il faut qu'il y ait des choses qui montrent quelque chose de Dieu et de sa gloire. Et c'est un petit peu ce que dit Jésus, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que ce que vous transmettez, par ce que vous montrez, est important aux yeux des autres. Et leur donnera envie d'ouvrir leur cœur ou pas. Et puis une troisième chose, et une dernière chose, sur le timbre. Tiens, qu'est-ce que c'est ça sur un timbre, une enveloppe? Comment ça s'appelle ça, ce que j'ai entouré?
La date?
Ouais, la date, un tampon. Pom. Ce qui prouve quoi? Que le timbre a été utilisé. Et que normalement, on ne peut plus le réutiliser. Hein, sinon, la poste aurait fait faillite depuis longtemps. Donc la poste met un tampon, quand elle le reçoit, elle prend votre lettre, et ce tampon représente une date, le jour où vous l'avez posté. Tiens, aujourd'hui, on est le 9 octobre 2016, c'est la poste de Prévecin qui vient de tamponner notre timbre. Hein? Voilà, je suis passé tout à l'heure, non, c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que comme un timbre ne s'utilise qu'une seule fois, n'oubliez jamais que votre vie est unique, et qu'elle ne sert qu'une seule fois aussi. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous faites de l'informatique ou si vous jouez à des jeux informatiques, les enfants ou les jeunes. Bon. Des pam 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 pam? Non? Bon, ça va alors. Mais ça peut arriver. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, ces jeux un peu violents, de guerre, etc., je peux comprendre que certains soient attirés par ça, mais il y a une idée derrière qui me déplaît, dans le sens où quand... C'est dans un monde virtuel, c'est pas la réalité, bien sûr. Mais dans ce monde virtuel, quand notre héros tue, c'est bien, je me surprends à dire ça, mais c'est pas grave. Mais à un moment donné, quand notre héros est tué, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. On arrive à le faire relever. Donc il recommence, il continue, puis on gagne des vies, etc. Ça, c'est le monde virtuel, c'est pas le monde réel. Notre vie, une fois qu'on l'a utilisée, elle est finie. Donc il ne faut pas la gâcher. Et pour ne pas la gâcher, Eh bien, je vous conseille effectivement d'ouvrir votre cœur à Jésus. Parce que vous saurez et vous verrez combien il est bon pour vous. Donc, trois choses que ce timbre peut avoir. Il est réservé, dit la Bible, aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Terminé, on ne revient pas, on ne renaît pas. Toutes les théories, je pense en particulier la réincarnation et d'autres, sont des leurres et des mensonges que Satan veut nous mettre en avant pour nous dire « ne t'inquiète pas, fais ta vie, plus tard tu iras mieux dans une seconde, troisième, dixième et quinzième vie ». Non, c'est faux. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est-à-dire que tu trouveras la présence de Dieu, c'est ça le salut. Et tu auras déjà sur la terre une réalité de cette présence dans ton cœur. Crois au Seigneur Jésus, sauvé. Sauvé parce que notre cœur, il est mauvais. Notre cœur, il est noir dès notre naissance. Même un petit bébé, quand il naît, son cœur est noir. Il est noir pourquoi ? Eh bien parce qu'en lui, il y a le péché. Et le péché, il nous coupe de Dieu. C'est quoi le péché ? C'est tout ce qu'on fait de mal. Et c'est quoi qu'on fait de mal en général ? Oui ? Des mots grossiers, quand on vole, on ment, on n'est pas droit, etc. Ben, il y a plein de choses. Ça, c'est le péché. Eh bien, ça, c'est la nature de l'homme dès sa naissance. C'est là-dedans, quelque part, et ça part, ça explose de temps en temps. Mais ça nous empêche, dit la Bible, d'aller vers Dieu. Et ça, c'est comme ça. C'est pourquoi ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, dit la Bible. Mais, c'est pour ça que Jésus est descendu du ciel. Quand on fête Noël, eh bien, on fête la naissance de Jésus qui est venu donner sa vie. Son cœur a saigné pour nous, son cœur a été meurtri et il a donné, il est mort pour nos péchés. Il a pris sur lui ce qui était mauvais pour que nous puissions aujourd'hui lui dire, eh bien oui, je veux venir et je te demande pardon. C'est ça l'évangile, vous savez, c'est simplement cela, c'est pas autre chose. Je reconnais que mon cœur est noir, j'accepte que Jésus ait pris sur lui mon péché, mon vol, mon mensonge, et je lui dis « pardonne-moi Jésus, et je te remets ma vie ». Et ainsi, bien évidemment, nous sommes accueillis avec un cœur purifié, un cœur blanc. Alors, il est blanc devant Dieu, parce qu'il reste, même sur terre, on a encore des soucis avec le péché. Mais, une fois qu'on a compris que Jésus était mort sur la croix pour nous, eh bien, aux yeux de Dieu, nous sommes vus comme cela. Un cœur blanc, un cœur pur. Alors, on va faire un petit moment de silence, les enfants et les adultes, et juste pour que nous puissions réfléchir à ce que nous avons entendu. Après quoi, eh bien, je vous parlerai du concours biblique, de ce qui peut peut-être vous intéresser pour poursuivre aussi la réflexion. Donc, faisons un petit moment de silence, quelques minutes, quelques instants, et puis je terminerai par la prière. Et puis, vous pouvez, dans ce temps de silence, eh bien, parler à Jésus, vous-même, et peut-être lui dire ce matin que vous voulez ouvrir votre cœur. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le faire dans votre cœur tout simplement. En tout cas, réfléchissez bien à cela. C'est une occasion que Jésus vous donne, à chacun d'entre nous. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions encore de nous montrer tout ton amour à travers cette histoire et ces cœurs qui sont représentatifs de la majorité des hommes aussi. En tout cas, Seigneur, tu veux nous parler, tu veux nous conduire, tu veux nous amener à comprendre et à accepter l'amour de Jésus pour nous. Et je te prie, Seigneur, pour que personne ce matin ne se prive de décider de faire entrer Christ dans sa vie, de faire entrer Jésus dans son cœur. Et si quelqu'un souhaite le faire et l'a fait ce matin, qu'il ait vraiment et qu'il reçoive maintenant cette paix de ta part par le Saint-Esprit, qu'il est un enfant de Dieu. Oui, Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés à la croix. Merci de nous réconcilier avec Dieu, notre Père. Merci parce que tu as souffert pour nous et que tu l'as fait par amour pour nous et quiconque peut recevoir ce pardon. Ô Seigneur, ce pardon est libérateur et je te prie que personne ne se prive de cela. Oui, c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Voilà, alors, Mon travail, en plus d'être pasteur, consiste à parler dans les églises où je suis invité, comme aujourd'hui, d'un concours biblique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un concours biblique. Qui connaît le concours biblique ici ? Retournez-vous les enfants, regardez, levez bien les mains en haut. Voilà. Et qui a fait un jour dans sa vie le concours biblique ? Regardez les enfants. Hein, ils n'en sont pas morts, hein, ils sont là. Hein. Ah, c'est génial, hein ? Voilà. C'est un concours biblique qui date depuis plus de 56 ans. Oui, mais attention, il a évolué quand même, hein, c'est pas... Vous rassurez, hein, vous allez voir, voilà. Donc ce concours biblique, le terme de concours, eh bien, c'est parce qu'il y a des choses qui vont être gagnées. Et c'est pour ça que c'est un concours. Mais ce n'est pas un qui va gagner devant tous les autres. Ce n'est pas le but. Mais chacun, va voir, va gagner quelque chose. Donc si tu as entre 8 et 16 ans, eh bien tu peux t'inscrire au concours. Même 7, hein, allez, on fait un rabais, hein, pour le prix, pour le même prix. 8, 16 ans, tu peux t'inscrire au concours. Et ce concours a plusieurs buts. Le premier but, c'est de mieux connaître et de mieux comprendre la Bible. Cette semence, justement, que Dieu vous a donnée. Et c'est adapté, bien sûr, à chacun de ses âges. Mais aussi, bien sûr, c'est d'aimer Jésus-Christ. Parce qu'à travers la Bible, nous découvrons la personne et l'œuvre de Jésus. Et c'est Jésus que nous mettons en avant, bien sûr, dans le concours biblique. Donc ça, ce sont ces buts du concours. Vous aider à connaître tout cela et à vous approcher de Jésus dans votre vie. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Vous allez réfléchir, répondre à des questions qui vous seront envoyées. Là, vous avez la version qui est à peu près sur papier. Donc, vous savez, quelques images, etc. Donc, il ne faut surtout pas le prendre comme quelque chose de scolaire et d'obligatoire. Il faut le faire avec plaisir. Personne ne va vous y obliger. Mais vous avez quelques petites lectures à faire, qui ne sont pas importantes quand même, hein, mais un petit peu. Et vous avez des places pour écrire et répondre aux questions. Après, vous renvoyez votre petit papier à l'Institut biblique. Vous aurez une adresse pour cela qui est notée ici. Mais bon, vous inquiétez pas, ça c'est un détail. Vous voyez, par exemple, l'évangile de Jean, une partie de cet évangile. Donc, vous apprenez plein de choses. À partir de 8 ans jusqu'à 10 ans, vous avez une série que nous appelons Éveil. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont moins de 10 ans ici. Oui, peut-être. Il y en a qui ont moins de 10 ans, voilà. Donc, vous serez sur cette petite partie d'éveil qui va vous éveiller à des choses de la foi, etc. Ensuite, démarre le concours proprement parlé dès 10 ans. Et vous avez toute une série, alors ce n'est pas des copains, hein, ce sont des livres de la Bible. Non, je précise, hein, parce que, voilà, c'est Luc, Marc, Jean, qui sont des disciples de Jésus, etc. Actes, David, Exode, Daniel, Genèse et Romains. On est en train de rajouter une série sur le livre de Ruth aussi, actuellement. Bref. Tout ça, ce sont des histoires, en tout cas des textes de la Bible qui vont vous être donnés et vous allez pouvoir ainsi découvrir les livres de la Bible. Il y en a 66 de livres en tout, hein, de la Bible. Alors, vous voyez, on est loin du compte, mais pour l'instant, rien qu'avec cela, vous pouvez rester avec nous entre 5 et 6 années. Donc c'est déjà pas mal si vous démarrez à ces âges qui sont conseillés. Voilà. Et puis vous allez gagner des récompenses. Alors, ça peut être des objets, ça peut être des bouquins, et puis on essaie de trouver des choses qui peuvent vous intéresser. Voilà. Donc, rassurez-vous, vous n'allez pas gagner un ordi, vous n'allez pas gagner une console, je vous le dis tout de suite, hein. Mais bon, on essaie quand même de faire avec les moyens du bord. Mais généralement, quand même, on essaie de vous donner des prix qui soient jolis et qui vous aident aussi dans votre vie avec Dieu. Tout est centré quand même aussi cette relation avec Dieu. Donc, vous gagnerez des récompenses. Et ces récompenses seront données à chaque fois que vous allez terminer une série. Après Luc, vous avez vu tout à l'heure, on passe à Jean ou Marc, et puis vous avez à la fin, chaque fois, une petite récompense qui vous est donnée. Donc, vous allez gagner au fur et à mesure des prix. Et si vous arrivez jusqu'à Romains, alors vous devenez diplômé du concours biblique. Et on vous envoie un diplôme signé de ma main, hein, le directeur, et si vous l'encadrerez au-dessus de votre cheminée, tout fier, vous êtes diplômé. Et voilà, vous recevrez ce concours. Alors ça, c'est au bout d'un certain temps, bien évidemment. Alors, vous pouvez, en vous inscrivant, choisir deux méthodes. Vous avez la méthode en ligne, ceux qui ont 10 ans et plus, et vous avez la méthode par courrier, avec un joli timbre. Ouais, ça c'est génial. Il y a beaucoup d'enfants qui sont par courrier, un peu moins en ligne. Là, on est en train de retravailler un petit peu la ligne, mais le courrier, parce que vous savez, les enfants, est-ce que vous recevez beaucoup de courriers ? Non, il vaut mieux des fois pas trop en recevoir, hein, parce que des fois, il y a des choses que nous, on reçoit, on n'aimerait pas les recevoir. Mais vous ne recevez pas beaucoup de courriers. Mais ça, c'est l'occasion pour vous de recevoir une lettre à votre nom, pour vous. Les parents, ils n'ont rien à voir. Hein, enfin, ils peuvent contrôler un petit peu. Mais c'est pour vous, d'accord ? Voilà. Il y a à peu près, aujourd'hui, plus de 1100 enfants qui font le concours, qui sont inscrits au concours. Et il y en a, on va dire, en activité, à peu près 800-850. Voilà, on a pas mal de nouvelles inscriptions suite aux colos, etc., qui arrivent depuis l'été. Je me déplace pas mal dans les colonies pour justement parler de Dieu et les inciter à s'inscrire. Voilà. Et à peu près un tiers en ligne et deux tiers par courrier. Pourquoi ? Parce que ben, les enfants, ils veulent recevoir du courrier. Voilà. Donc l'Internet encore n'a pas bien pris, si on peut dire, mais il y en a qui le font. Alors là, en ligne, vous avez un code pour vous, et puis vous allez sur Internet. Il faut que vos parents soient d'accord, bien évidemment, mais vous avez un numéro qui vous est propre, et vous faites le concours en ligne, et vous envoyez directement par un clic vos réponses. Vous allez aussi recevoir votre journal, à vous, le journal des Amis de la Bible, parce que vous ferez partie du concours biblique. Vous serez Amis de la Bible. Et dans ce journal, eh bien, vous aurez chaque fois des petites histoires, vous aurez l'occasion aussi de faire des jeux, vous aurez l'occasion aussi de vous faire des amis au sein du concours, si vous souhaitez correspondre avec quelqu'un, par exemple, on peut vous mettre en relation selon vos souhaits, vos hobbies, etc. Voilà, ça c'est pour vous à partir de l'évangile de Marc. Et puis ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des questions, parce que nous on va vous en poser, mais vous pouvez aussi nous les poser, à nous, et ce que vous voulez. Alors, par exemple, Elsa, 12 ans, elle nous a posé cette question. Est-ce que si on embrasse un garçon, pour le cas d'une fille, sur la bouche quand on est au collège ou au lycée, on pèche contre Dieu ? Est-ce mal ? Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'aimerais bien savoir. Alors, j'ai beaucoup aimé ça parce que je me suis dit, elle doit se dire, il ne faudrait pas qu'ils en parlent aux parents. Vous voyez, ce genre de questions, entre autres, on en a pas mal sur ce sujet, vous imaginez. Pourquoi Jésus a-t-il choisi que 12 disciples en un mandat 14 ans ? Comment se fait-il que les disciples de Jésus dormaient quand on venait arrêter Jésus ? Alors ça l'a interpellé. Bon, voilà, elle nous a questionné là-dessus. Donc on répond à ces questions et là on envoie un courrier spécialement avec la réponse. Pourquoi est-ce si difficile de résister au péché ? Pourtant nous savons que c'est mal. C'est pertinent, hein ? C'est pertinent comme question. Anaël, 16 ans. Voilà donc quelques questions. Alors, bien sûr, c'est gratuit. C'est gratuit. On vous demandera jamais d'argent. La seule chose que vous aurez à payer, quand même, c'est un timbre. Si vous le faites par courrier. Si vous le faites sur Internet, vous n'aurez jamais rien à payer. Voilà. Donc, c'est nous qui payons tout ce qui est les frais, etc. Et l'association vit, effectivement, alors je parle plus aux adultes pour qu'ils soient au courant, de dons, des œuvres, des églises, des parents qui nous soutiennent, etc., qui nous envoient parfois des timbres avec des courriers, etc. Voilà. Voilà, nous sommes une association qui est culturelle, bien sûr, mais qui est indépendante de tout l'état de subventions, etc. Depuis 56 ans, l'association vit de dons, avec un budget, pour vous donner une ordre d'idée, à peu près de 155 000 euros l'année. Voilà, ce qui n'est quand même pas un petit budget à ce niveau-là. Donc, je suis moi le représentant extérieur, je m'occupe de tout ce qui est écrit, théologie, etc., relations avec le comité d'administration, et il y a deux salariés, qui sont 80% à peu près, qui sont sur place et qui, elles, alors corrigent. C'est Petra et Bettina. Si vous vous inscrivez au concours, ce sont elles qui vont vous renvoyer chaque fois vos réponses avec la série qui suivra, ou en tout cas les questions qui suivront. Voilà, Petra et Bettina, les deux secrétaires sur place. Et nous sommes basés en Ardèche, à Saint-Julien, en Saint-Alban. Voilà, donc, est-ce que tu es prêt à relever le défi ? Moi, c'est ce que j'aimerais te proposer. Hein, le défi, eh bien, tout simplement, d'abord de t'inscrire, et puis après de répondre aux questions, mais rassure-toi, ce ne sera pas compliqué, et puis de gagner des récompenses, etc., et d'avancer avec nous, et de voir que, finalement, il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi, et qui sont là avec nous. Voilà, alors, je vous laisse des petits flyers d'inscription. Vous avez de quoi écrire derrière, nom, prénom, etc. Alors, si vous voulez le faire et profiter que je sois là encore un temps avant le départ, faites-le maintenant et vous me le donnez. Moi, je l'apporte tout de suite à l'Institut. Mais si vous écrivez, je ne vais pas toujours vérifier, écrivez surtout très, très lisiblement, particulièrement les adresses Internet, mettez un numéro de téléphone, parce que si vous écrivez mal votre adresse, ça n'arrivera jamais. Et puis vous allez vous dire, ouais, Frédéric, jamais rien reçu. On ne peut pas deviner. Bon, c'est pour ça que vous mettez un téléphone aussi, comme ça on vous rappelle s'il y a un souci. D'accord ? Donc, voilà, je vous les laisse ici. Donc, vous les prendrez, les enfants. Vous pouvez en prendre aussi pour des copains ou des copines, ou des frères et des sœurs, comme vous voulez. Distribuez-en, n'hésitez pas. Hein, c'est quelque chose qui est important. Voilà, je vais laisser la place. Je ne sais pas si je dois laisser la place à quelqu'un. Oui, ça.
Alors, un grand merci à ce qui a été partagé ce matin, ce qu'on a reçu. Merci Frédéric, que Dieu continue à te bénir. Je partage avec vous les annonces. Je vous laisse. Ah ben oui, il faut juste que l'écran se reconnecte. Non, c'est bon, c'est bon. Juste pendant que ça se reconnecte, donc mardi, on aura les cellules. Et puis pour la cellule de Gex, ce sera chez Jean-Paul et Lydie. La cellule de Prèvesaint chez Emmanuel et Rebecca. Et la cellule de Collonges, Farge et Perron chez Pierrick et Lydia. Voilà. Juste après le culte, on a un apéritif. Donc ne partez pas trop vite. Ce sera l'occasion aussi peut-être d'avoir un petit peu de temps si vous voulez remplir les petits feuillets pour le concours biblique. Donc l'apéritif, comme il fait beau, on vous propose de le faire dehors, de l'autre côté du bâtiment, au bout du bâtiment. Et c'est important aussi de passer du temps ensemble. La semaine prochaine, il y aura l'étude biblique pour les aînés, mardi donc, à 14h30. Concernant les nouvelles des uns et des autres, continuons de penser à Brian. Brian a toujours ce problème de paralysie de sa jambe droite qui revient, qui est lié aussi au nerf sciatique. C'est ce qu'a dit le chirurgien. Donc voilà, pensons à lui, prions pour lui, pour Hélène aussi, pour qui ce n'est pas facile. Continuons de penser à Roland. Roland continue les exercices de rééducation tous les matins, donc à l'hôpital de la Tour. Pour des questions pratiques, la durée de 6 semaines a été portée à 9 semaines. Voilà, donc c'est un petit peu plus long. Continuons de penser à lui. Pensons aussi toujours à Annelise. Annelise qui a de nouveau de fortes douleurs et pour le coup qui a été réhospitalisée donc à l'hôpital cantonal. C'est pas facile quand on souffre. Eh bien voilà, on peut prier pour elle, la remettre à notre Dieu. Cette semaine, comme chaque semaine, on vous invite à prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution. Et là, on vous invite à prier pour la Mauritanie, voilà, qui est le pays tout à l'ouest de l'Afrique, qui n'a pas de numéro pour cette année. Je vous invite à vous lever. Je partage avec vous encore un verset d'un psaume. C'est David qui nous partage sa prière à Dieu et qui dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Donc, il s'adresse à Dieu. « J'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. » Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Voilà, que Dieu vous fasse du bien aussi à chacun. Bon dimanche, bonne journée, bonne semaine. Soyez bénis.